Huitième couplet. À pile ou face. 1. Au cours de l'hiver 1984-1985, quand Eddie était gentiment en train de prendre un aller simple du pays de l'héroïne récréative jusqu'au royaume du pas tiré d'affaires, Henry Dean rencontra une fille, dont il tomba brièvement amoureux. Eddie voyez Sylvia Goldover comme un Shankel Supremo, aisselle nauséabonde et haleine de dragon filtrant à travers une paire de lèvres à la Mick Jagger. Mais il n'en dit rien, parce que Henry la trouvait belle, lui, et qu'Eddie ne voulait pas faire de peine à Henry. Cet hiver-là, les tourtereaux passèrent beaucoup de temps à se promener sur la plage venteuse à Coney Island, ou à aller au cinéma à Times Square, où ils s'asseyaient dans le noir au dernier rang et se branlaient l'un l'autre une fois qu'ils avaient englouti le pop-corn et la boîte géante de biscuits. Concernant cette nouvelle venue dans la vie d'Henry, Eddie se montrait philosophe. Si Henry réussissait à faire l'impasse sur cette haleine ignoble et à se livrer à la danse des langues avec Sylvia Goldover, tant mieux pour lui. Eddie lui-même passa la majeure partie de ses 3 mois gris tout seul et défoncé dans l'appartement de la famille Dean. Il s'en moquait, en fait. Ça lui plaisait même plutôt. Si Henry avait été là, il aurait insisté pour regarder la télé et il aurait passé son temps à charrier Eddie sur ses histoires fleuves sur cassette. Matez un peu! Eddie va écouter ses salades débiles sur les elfes et les ogres, et ses petits nains tout rognons. Il s'entêtait à appeler les orques des ogres, et les elfes les chichiteux sur pied. Henry trouvait que toute cette merde inventée, c'était des trucs louches. Eddie avait parfois tenté de lui expliquer qu'il n'y avait rien de plus inventé que toutes ces saloperies diffusées l'après-midi à la télé. Mais Henry ne voulait rien entendre. Henry savait tout des méchants jumeaux de General Hospital et de la belle-mère tout aussi maléfique de The Guiding Light. Par de nombreux aspects, la grande histoire d'amour d'Henry Dean, qui se termina lorsque Sylvia Goldover vola $90 dans son portefeuille, laissant à la place un petit mot disant « Désolé, Henry ». Et reprit ni vu ni connu son histoire avec son ancien petit ami, fut un soulagement pour Eddie. Il restait assis sur le canapé du salon. Il mettait les cassettes de John Gielgud, lisant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le tout en se faisant éclater la peau le long de l'intérieur du bras, avant de s'assoupir au milieu de la forêt noire ou des mines de la Moria, avec Frodon et Sam. Il avait adoré les Hobbits. Il s'était dit qu'il aurait volontiers passé tout le reste de sa vie à Hobbiton, où la pire drogue en circulation était le tabac, et où les grands frères n'occupaient pas leur journée à charrier leurs petits frères. Et la petite chaumière de John Cullum le ramena à ses jours anciens et à cette histoire sombre avec une force étonnante. Parce que la chaumière avait un faux air de terrier de hobbit. Les meubles du salon étaient rares, mais parfaits. Un canapé et 2 fauteuils bien rembourrés, avec ses petits napperons blancs sur les accoudoirs et là où reposait la tête. La photo en noir et blanc accrochée au mur dans son cadre doré devait représenter les parents de Cullum. Et en face, ce devait être ses grands-parents. Il y avait aussi un diplôme d'honneur de la brigade des pompiers bénévoles de la ville d'East Stoneham, et aussi une perruche en cage, qui gazouillait gentiment, et un chat devant la cheminée. Il leva la tête en les entendant entrer, observa les inconnus de son regard vert pendant quelques instants, puis parut se rendormir. Un cendrier sur pied se dressait à côté de ce qui devait être le fauteuil fétiche de Cullum. Et 2 pipes étaient posées dessus. La première, une pipe de maïs, et l'autre, une pipe de bruyère. Un vieux transistor tourne-disque Emerson, avec une large bande numérotée et un gros bouton à molette pour choisir sa fréquence. Mais pas de poste de télévision. Dans la pièce régnait une douce odeur de tabac et de pot-pourri. Il avait beau être exceptionnellement bien rangé, il suffisait d'un regard sur ce salon pour deviner que c'était là l'antre d'un vieux garçon. L'intérieur de John Callum était une ode pudique aux joies du célibat.
« Comment va votre jambe ? » demanda-t-il. « On dirait que ça saigne plus, au moins. Mais vous avez un sacré trou dans votre futale. »
Eddie éclata de rire. « Ça fait un mal de chien, cette saloperie. Mais j'arrive à marcher, alors j'imagine que j'ai de la chance. »«
La salle de bain est là, si vous voulez nettoyer la plaie. »
fit Callum en désignant une porte du doigt.
« Je ferai mieux, effectivement. »
Le nettoyage fut douloureux, mais lui procura un véritable soulagement. La blessure était profonde, mais la balle avait raté l'os et de loin. Le bras ne posait quasiment aucun problème. La balle était passée à travers, Dieu soit loué, et Callum avait de l'eau oxygénée dans son armoire à pharmacie. Eddie en versa dans le trou, découvrant les dents sous l'effet de la douleur. Puis il entreprit d'en appliquer aussi sur sa jambe et son cuir chevelu lacéré, avant de perdre courage. Il essaya de se rappeler si Frodon et Sam avaient dû affronter les horreurs de l'eau oxygénée, et rien ne lui vint.
Ouais, évidemment, ils avaient les elfes pour les soigner, pas vrai?
« J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous servir, »
lança Callum quand Eddie réapparut. Il passa dans la pièce à côté et en revint avec une petite bouteille marron contenant 3 comprimés. Il les déposa dans la paume d'Eddie en expliquant
« C'était quand je suis tombé sur le verglas l'hiver dernier et que je me suis explosé cette foutue clavicule. Du percodan, ça s'appelle. Je sais pas s'ils sont encore bons, mais... »
Le visage d'Eddie s'illumina.
« Du percodan, hein ?»
demanda-t-il en engouffrant les 3 cachets avant même que John Callum ait fini sa phrase.
« Tu veux pas de l'eau avec ça, fiston ?»«
Non !» répondit Eddie en mâchant avec enthousiasme. « Nature, c'est un régal !»
Une vitrine pleine de balles de baseball trônait sur une table près de la cheminée, et Eddie alla y jeter un œil.
« Oh mon Dieu !» s'exclama-t-il. « Vous en avez une dédicacée par Mal Parnell ?» Et une Lefty Grove. Bon Dieu de merde!
Et encore, ça c'est rien,
fit Callum en prenant sa pipe de bruyère.
Regarde un peu sur l'étagère du haut.
Il alla chercher un sachet de tabac Prince Albert dans le tiroir d'une petite table et se mit à bourrer sa pipe. Ce faisant, il croisa le regard de Roland.
Vous fumez?
Roland fit signe que oui. De sa poche de chemise, il sortit un seul morceau de feuille.
Je vais peut-être m'enrouler une.
Oh, je peux faire mieux que ça,
fit Callum en quittant de nouveau le salon. La pièce d'à côté était un bureau à peine plus grand qu'un placard. Le bureau ancien en son centre n'était pas bien grand, pourtant Callum dut se mettre de profil pour le contourner.
Bon Dieu!
S'exclama de nouveau Eddie, en apercevant la balle dont voulait sans doute parler Callum.
Un autographe du Babe!
Pour sûr, acquiesça leur hôte. Pas quand il jouait pour les Yankees, j'en ai rien à faire d'une balle signée par un Yankee. Celle-là, il l'a signée quand il portait encore le maillot des Red Sox.
Il s'interrompit.
Les voilà, je savais bien qu'il m'en restait. Elles sont peut-être plus très fraîches, mais, comme disait ma mère, c'est toujours plus frais que quand il n'y en a pas du tout. Et voilà, monsieur, c'est mon neveu qui les a laissées. De toute façon, il est trop jeune pour fumer.
Callum tendit au pistolero un paquet de cigarettes aux 3/4 pleins. Roland les fit tourner dans sa main d'un air songeur, puis désigna le nom inscrit sur le paquet.
« Je vois le dessin d'un dromadaire, mais ça n'est pas ce qui est écrit, n'est-ce pas ?»
Callum sourit à Roland avec une sorte d'étonnement prudent.
« Non, ce mot, c'est camel, qui veut dire chameau. C'est presque la même chose. »«
Ah !»
fit Roland en essayant de prendre l'air d'avoir compris. Il extirpa une cigarette du paquet, en étudia le filtre, puis mit l'autre extrémité entre ses lèvres.
« Non, dans l'autre sens, »
lui indiqua Callum.
Vraiment?
Pour sûr.
Bon sang, Roland. Il a une Bobby Darr, deux Ted Williams, une Johnny Pesky, une Frank Malzahn.
Sinon, ils ne vous disent rien du tout, pas vrai?
Demanda Cullum à Roland. Non, répondit-il. Mon ami. Merci. Il approcha sa cigarette de l'allumette que lui tendait Cy Cullum. Mon ami n'est plus venu par ici depuis un bon moment. Je pense que ça lui manque.
Vain Dieu, fit Cullum. Des entrants chez moi. J'ai du mal à le croire.
Où est Dewey Evans? Demanda Eddie. Vous n'avez pas de balle de Dewey Evans?
Pardon? Fit Cullum.
Pardon? Entendirent-ils.
Peut-être qu'on ne l'appelle pas encore comme ça, fit Eddie presque pour lui-même. Dwight Evans, l'ailier droit.
Oh, acquiesça Cullum. Eh bien, je n'ai que les meilleurs ici, tu vois bien.
Dewey joue dans la cour des grands, vous pouvez me croire. Peut-être qu'il ne mérite pas encore sa place au palmarès chez John Cullum, mais attendez quelques années. Attendez 1986. Et d'ailleurs, John, puisque vous êtes un grand fan, je voudrais vous dire deux mots. Vous êtes d'accord?
Bien sûr.
À l'oreille, on se serait cru à la cala.
Bien sûr.
Pendant ce temps, Roland se mit à fumer. Il expira la fumée et regarda sa cigarette d'un air perplexe.
Ces deux mots sont Roger Clemens, fit Eddie. N'oubliez pas ce nom.
Clemens,
répéta Cullum d'un air dubitatif. Au loin, en provenance de l'autre rive de l'étang de Kewadin, monta le son de nouvelles sirènes.
Roger Clemens, pour sûr je m'en souviendrai. C'est qui?
Vous voudrez l'ajouter à votre collection, pour résumer, dit le jeune homme en tapotant l'étagère. Peut-être même juste à côté du babe.
Les yeux de Cullum se mirent à briller.
Dis-moi une chose, fiston. Est-ce que les Red Sox ont tout gagné déjà? Est-ce qu'ils ont...
Ce n'est pas une cigarette, c'est juste de l'air un peu terreux, fit Roland. Il lança à Cullum un regard de reproche qui ne lui ressemblait tellement pas qu'il fit sourire et dit.
Aucun goût, pour ainsi dire. Est-ce que les gens les fument vraiment?
Cullum prit la cigarette des mains de Roland, la cassa à hauteur du filtre et la lui rendit.
« Essayez comme ça, »
dit-il en se concentrant de nouveau sur Eddie.
« Alors? Je vous ai tiré d'un mauvais pas là-bas, vous me devez bien ça. Est-ce qu'ils ont gagné le championnat? Jusqu'à ton départ, du moins. »
Le sourire d'Eddie s'évanouit et il adressa au vieil homme un regard sérieux.
« Si vous voulez vraiment une réponse, je vous la donnerai, John. Mais est-ce que vous la voulez ?»
John réfléchit en tirant sur sa pipe. Puis il finit par répondre.
« Non, je pense que non. Ça gâcherait le plaisir. »«
Je vais vous donner une piste, » fit Eddie d'un ton jovial. Les pilules que lui avait refilées John lui avaient redonné un coup de fouet et il se sentait d'humeur joviale.
Un peu, du moins.
Ce serait trop bête de mourir avant 1986. Ça va être royal, je peux vous dire.
Pour sûr.
Je dis bien vrai, absolument.
Puis Eddie se tourna vers le pistolero.
Qu'est-ce qu'on va faire pour notre Gunnar, Roland?
Roland n'y avait pas pensé une seconde. Le peu de bien qu'il leur restait, depuis le couteau à tailler d'Eddie acheté chez Took, jusqu'au vieux sac serre de Roland que lui avait donné son père, par-delà l'horizon lointain du temps, était resté de l'autre côté quand ils avaient franchi la porte. Quand ils s'étaient fait projeter à travers la porte. Le pistolero imaginait que leur Gunnar reposait quelque part, sur la poussière, devant la boutique d'East Stoneham. Même s'il n'avait pas de souvenirs précis. Il était trop préoccupé de mettre Eddie, et lui-même, à l'abri, afin que le tireur à la carabine ne leur fasse pas sauter le caisson. Repenser à tous ses vieux compagnons de route, calcinés dans l'incendie qui avait dû détruire la boutique, fit mal à Roland.
C'était pire encore de les imaginer aux mains de Jack Andolini. Roland eut une vision fugitive mais très vivace de son sac serre, accroché à la ceinture d'Andolini comme un sac banane, ou le scalp d'un ennemi, et cette vision le fit grimacer. Roland est notre,
nous avons nos armes. C'est tout ce dont nous avons besoin,
dit Roland plus sèchement qu'il l'aurait voulu. Jack a le livre Chouchou,
et je peux nous confectionner une nouvelle boussole si le besoin se présente. Sinon...
Mais si tu veux parler de vos affaires, fiston, je peux faire ma petite enquête le moment venu, proposa Callum. Mais pour l'instant, je dirais que ton ami a raison.
Eddie savait que son ami avait raison. Son ami avait presque toujours raison. Et ça restait une des rares choses qu'Eddie détestait chez lui. Il voulait son Gunnar, bon sang, et pas seulement pour avoir un jean et une chemise propre, pas non plus pour les munitions ou son couteau, si beau fut-il. Il gardait une mèche de cheveux de Susanna dans son sac à malice en cuir, et elle portait encore un peu de son odeur. Voilà ce qui lui manquait. Mais impossible de revenir en arrière.
« John, fit-il, quel jour sommes-nous ?»
L'homme haussa ses sourcils gris et broussailleux.
« Tu es sérieux ?»
Et quand Eddie hocha la tête,
« Le 9 juillet, de l'an de grâce 1977. »
Eddie émit un sifflement silencieux à travers ses lèvres. Roland s'était rendu à la fenêtre pour jeter un œil dehors, tenant entre ses doigts le bout rougeoyant de sa cigarette dromadaire. À l'arrière de la maison, rien que des arbres et quelques alléchantes bribes bleues de ce que Cullum appelait le Keywadin. Mais la colonne de fumée noire était toujours visible dans le ciel. Comme pour lui rappeler que la sensation de paix que pouvaient susciter en lui ces lieux n'était qu'une illusion. Il fallait qu'il parte. Et quelle que fût sa peur panique concernant Susanna Dean, maintenant qu'ils étaient ici, il leur fallait trouver Calvin Tower et en terminer avec lui. Et vite, parce que... Comme s'il lisait dans ses pensées, Eddie compléta la phrase.
« Roland, le temps presse, le temps de ce côté-ci s'accélère. »«
Je sais. » »«
Ce qui veut dire que, quoi qu'on fasse, on a intérêt à le faire bien du premier coup, parce que, dans ce monde, on ne sait jamais si on peut revenir plus tôt. Il n'y a pas de seconde chance. »
Ça aussi, Roland le savait.